Chapitre 8. Le testament. Maître Bernard entra dans ce salon où il avait l'habitude de venir du temps de son client, M. Montessieux, et présenta ses hommages à Bertrande et à Catherine. Il les fit asseoir, puis il tendit la main à Raoul.
« Je vous remercie de m'avoir envoyé l'adresse de ces dames, mais pouvez-vous m'expliquer ?»«
Je crois, maître, que l'explication doit être donnée surtout par vous, au cas, bien entendu, où il se serait passé quelque chose de nouveau depuis notre entretien. » Raoul interrogeait du regard le notaire, qui répondit
« Vous savez donc qu'il s'est passé quelque chose de nouveau ?»
« J'ai tout lieu de supposer, mon cher maître, que la question que je vous ai posée dans votre étude a reçu une solution. »«
Grâce à vous, sans doute, je me demande par quel sortilège. Toujours est-il que, conformément aux intentions qu'il m'avait souvent exprimées, M. Montessieu a laissé un testament, et les conditions dans lesquelles nous le retrouvons ne font qu'augmenter ma surprise. »
Par conséquent, je ne me suis pas trompé en supposant qu'il y avait corrélation entre les dispositions de ce testament et les incidents qui entourent le crime mystérieux dont M. Guersin a été victime.
Je l'ignore. Ce que je sais, c'est que vous avez bien fait de venir me voir au nom de Mademoiselle Montessieux. Lorsque je reçus, il y a quelques jours, la lettre déconcertante que vous m'avez envoyée, j'étais tenu, malgré l'impossibilité de l'hypothèse, de la vérifier.
Ce n'était pas une hypothèse.
Oh, c'en était une pour moi, et tout à fait inadmissible. Voici votre lettre. Maître Bernard, le testament de M. Montessieux se trouve dans le dossier même qui est marqué à son nom dans votre étude. Je vous prierai d'en prévenir vos deux clientes dont suit l'adresse actuelle. En toute autre circonstance, j'aurais jeté cette lettre au feu. Au lieu de cela, j'ai cherché.
Et le résultat ? Maître Bernard tira de sa serviette une enveloppe assez grande, d'un blanc ivoire sali par le temps et par les contacts. Tout de suite, Catherine s'écria :
« Ah, mais c'est une des enveloppes dont se servait toujours mon grand-père. »
« En effet, moi-même j'en ai conservé plusieurs qu'il m'envoya. Vous lirez sur celle-ci quelques lignes écrites en travers. »«
Ceci est mon testament. 8 jours après ma mort, mon notaire, maître Bernard, l'ouvrira en mon manoir de la Barre Iva. Il en donnera lecture à mes 2 petites filles et tiendra la main à ce que mes volontés soient respectées. »
Catherine affirma de la façon la plus formelle :
« Cette écriture est celle de mon grand-père. J'en pourrais donner 20 preuves. »
« Je fais la même déclaration. Par excès de scrupule, je me suis rendu hier à Rouen et j'ai consulté un expert. Son avis est absolument conforme au nôtre. Donc, aucune hésitation. » Mais avant d'ouvrir, je dois spécifier que plus de 10 fois depuis 2 ans, autant pour chercher cette pièce nécessaire à l'exploitation des fermes Montessieux dont mon client m'avait toujours chargé, que pour répondre à mon besoin de trouver ce testament, plus de 10 fois j'ai eu l'occasion de feuilleter le dossier Montessieux. Je déclare sur mon honneur professionnel qu'il ne contenait pas ce document.
Cependant, maître Bernard...
Je dis ce qui est, monsieur. Le dossier ne contenait pas ce document.
Alors, maître Bernard, quelqu'un l'y a introduit.
Je n'avance rien et je ne nie rien. J'énonce simplement une vérité indiscutable. D'ailleurs, mes souvenirs sont corroborés par une habitude à laquelle je n'ai jamais dérogé. Aucun des testaments qui me sont remis ne prend place dans les dossiers de mes clients. Tous sont enfermés et rangés par ordre alphabétique dans mon coffre-fort. Par conséquent, si j'avais été en possession du testament dont je vais vous donner lecture, C'est là, et non pas dans le dossier Montessieu, que je l'eusse découvert. »
Il allait ouvrir l'enveloppe lorsque Théodore Béchoux l'arrêta d'un geste.
« Un instant. Ayez l'extrême obligeance de me confier cette enveloppe. »
Quand il l'eut en main, il l'examina avec une attention minutieuse et conclut
« Les 5 cachets sont intacts. De ce côté, rien de suspect. Mais l'enveloppe a été ouverte. »
« Que dites-vous ? » ?»«
Elle l'a été sur toute sa longueur. Une fente pratiquée le long du pli supérieur par une lame de canif qui fut ensuite habilement recollée. »
Avec la pointe d'un couteau, Béchoux sépara les 2 lèvres de la fente à l'endroit qu'il indiquait. Et il put ainsi retirer de l'enveloppe, sans avoir brisé les cachets, une feuille double de papier sur lequel étaient tracées des lignes.
« Même papier que l'enveloppe ? Et même écriture, n'est-ce pas ?»
Le notaire et Catherine furent du même avis. C'était l'écriture de M. Montessieu. Il n'y avait plus qu'à lire le testament. C'est ce que fit Maître Bernard au milieu d'un silence profond et de l'émotion qu'avaient provoqué les circonstances mêmes de cette découverte.
« Un dernier mot. Vous acceptez toutes deux, mes chères clientes, que ma lecture ait lieu devant messieurs Béchoux et Raoul Davenac. »
Oui.
Je la lis donc. Je sous-signais Michel Montessieu, âgé de 68 ans, sain d'esprit et de corps, agissant selon des idées mûrement réfléchies, d'après mon droit légal et moral, je lègue à mes 2 petites filles, en priant l'une et l'autre de les laisser dans l'indivision et d'en toucher par moitié les revenus, les terres, bien réduites hélas, qui entourent le domaine jadis si florissant de la Barre Iva. Pour ce domaine, je le divise en 2 parts inégales qui suivent à peu près le cours de la rivière. L'une à droite, qui comprend le manoir et tout ce qu'il contiendra à l'heure de mon décès, sera la propriété de Catherine, qui, j'en suis sûr, l'habitera et l'entretiendra comme nous avons toujours fait, elle et moi. L'autre moitié sera celle de Bertrande, qui, mariée et souvent absente, aura plaisir à posséder ici, comme pied-à-terre, l'ancien pavillon de chasse. Pour le remettre en état et pour le meubler, en même temps que pour compenser l'inégalité des 2 parts, il sera prélevé sur ma succession, en faveur de Bertrande, une somme de 35 000 francs, représentée par la poudre d'or que j'ai réussi à fabriquer et dont je dirai, dans un codicille, l'emplacement exact. J'exposerai en même temps, quand le moment sera venu, le secret de cette découverte sans pareil, dont Maître Bernard, seul actuellement, pourrait certifier l'authenticité, puisque je lui ai montré quelques grammes de ma poudre. Je connais assez mes petites filles pour savoir qu'il n'y aura entre elles aucune difficulté dans l'observation de mes volontés. Mais l'une est mariée, l'autre se mariera, et afin de leur éviter des erreurs d'interprétation pouvant provoquer des malentendus pénibles, j'ai établi un plan topographique du domaine, lequel plan je laisse dans le tiroir de droite de mon bureau. Et je spécifie ceci de la façon la plus catégorique. La limite qui séparera les 2 propriétés incluses dans le domaine suivra une ligne droite qui partira du saule central des 3 saules où Catherine aimait à se réfugier et aboutira au dernier pilier ouest des 4 piliers où s'accrochent les grilles de l'entrée principale dans le parc. J'ai l'intention, d'ailleurs, de marquer cette limite soit par une haie de troène, soit par une palissade. Chacun chez soi. C'est une règle à laquelle je tiens formellement. »
Maître Bernard acheva très vite la lecture du testament, qui n'offrait plus d'ailleurs que des points d'un intérêt secondaire. Catherine et Raoul s'étaient regardés
lorsqu'il avait été question des trois saules. Pour eux, c'était là l'essentiel de ces quelques pages. Mais l'attention des autres avait été surtout attirée par la clause de la poudre d'or. Et Béchoux prononça d'un ton dogmatique.
Il faudrait livrer ce document aux experts et s'assurer qu'il n'y a aucun doute sur son authenticité. Mais une preuve qui aurait sa valeur immédiate et, à mon sens, définitive, ce serait de trouver dans ce manoir ou dans le parc les quelques kilos d'or qui gageraient la somme de 35 000 francs.
Béchoux prit son air le plus sardonique pour énoncer ses dernières paroles. Mais Raoul d'Avenac dit à Catherine « Vous n'avez aucune déposition à faire à ce propos, mademoiselle ?» On eût cru que Catherine attendait la demande de Raoul et qu'elle ne voulait parler qu'approuvée et encouragée par lui. Car aussitôt, elle déclara
« Oui, je puis apporter un témoignage personnel et donner de la sincérité de mon grand-père, la preuve palpable que réclame M. Béchoux. Depuis 3 mois que nous sommes ici, j'ai fouillé partout pour faire renaître toutes les traces d'un passé où j'ai été si heureuse. C'est ainsi que j'ai pris, à l'endroit où grand-père aimait à travailler, la carte topographique que j'avais établie avec lui. Et que voilà. Et c'est ainsi qu'un hasard m'a montré. »
Elle regarda de nouveau Raoul et, se sentant soutenue, acheva.
« Qu'un hasard m'a montré la poudre d'or. »«
Comment ?» fit vivement Bertrande.
« Tu as vu et tu n'as rien dit ?»«
C'était le secret de grand-père. Je ne pouvais le révéler que sur son ordre. »
Elle les pria tous de la suivre jusqu'à l'étage supérieur. Et ils pénétrèrent, entre les mansardes des domestiques, dans la haute pièce centrale, dont les madriers supportaient la partie la plus élevée du toit. Tout de suite, elle désigna de vieux pots de grès, fendus, cassés, comme ces récipients hors d'usage que l'on relègue en un coin où ils ne gênent pas. De la poussière les revêtait, et des toiles d'araignées les reliaient les uns aux autres. Personne n'avait eu et ne pouvait avoir eu l'idée de les tirer de leur retraite. Sur 3 d'entre eux s'étendaient des morceaux de verre empilés et des débris d'assiettes. Béchoux prit un escabeau branlant qu'il approcha et il atteignit l'un des pots qu'il tendit à Maître Bernard. Au premier coup d'œil, celui-ci reconnut, sous la poussière, la lueur brillante de l'or et il murmura en enfonçant ses doigts comme dans du sable.
« C'est de l'or, de la poudre d'or, pareil à l'échantillon d'autrefois, c'est-à-dire composé de grains assez gros. »
Une même quantité remplissait les autres récipients. Le poids annoncé par M. Montessieux devait être exact. Béchoux conclut, stupéfait.
« Alors quoi? Vraiment? Il en fabriquait? Est-ce possible? 5 ou 6 kilos d'or, peut-être? Mais c'est un miracle! Oh, pourvu que le secret ne soit pas perdu! »
Je ne sais s'il sera perdu. En tout cas, le testament ne contenait aucun codicille à ce sujet, et l'enveloppe, aucune feuille supplémentaire. Sans le concours de Mademoiselle Montessieux, il est bien probable que personne n'aurait jamais eu l'idée d'examiner les vieux pots où le trésor était caché.
Pas même mon ami d'Avenac, grand devin et grand sorcier. Hein, c'est ce qui te trompe. J'en ai fait la visite le surlendemain de mon arrivée. Allons donc.
Monte sur ton escabeau et descends le 4e pot.
Bien.
Il y a en dessous, fiché dans la poudre, un petit carton, n'est-ce pas? Eh bien, tu liras sur ce carton, de l'écriture de M. Montessieux, le millésime de l'année, et à côté cette date, 13 septembre. C'est évidemment la date où de la poudre d'or a été versée dans ce pot. 2 semaines plus tard, M. Montessieux quittait le domaine de la Bariva. Le soir de son arrivée à Paris, il mourait subitement. Béchoux écoutait, la bouche bée.
Il bredouilla.
Tu savais
C'est mon métier de savoir. Le notaire fit descendre tous les pots et les fit enfermer au premier étage, dans le placard d'une chambre dont il prit la clé.
« Il est plus que probable, dit-il à Bertrande, que cette somme vous sera remise. Mais je dois, n'est-ce pas, vu les circonstances, prendre des précautions relativement à l'authenticité du testament. »
Maître Bernard allait se retirer lorsque Raoul lui dit « Puis-je vous demander encore une minute d'attention ?»«
Certes. »
« Tout à l'heure, alors que vous lisiez le testament, j'ai aperçu en dernière page quelques chiffres. »
« En effet, »
répliqua le notaire qui montra la page.
« Mais ce sont de ces chiffres qu'on pose au hasard et qui répondent à une préoccupation du moment. Ceux-ci, évidemment, n'ont aucun rapport avec les dispositions de M. Montessieu. Oh, telle est ma certitude après les avoir bien examinés. Comme vous pouvez le voir, ils sont tracés bien au-dessous de la signature, rapidement, mal formés, à la façon d'une note qu'on aurait jetée là parce qu'on n'avait pas d'autres papiers sous la main. »
« Vous devez avoir raison, maître Bernard. Mais tout de même, voulez-vous me permettre de les copier ?» Et Raoul copia cette ligne de chiffres. 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6, 9, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 3, 1, 0, 1, 1, 1, 2, 9, 1, 2, 1, 3, 1, 4. Je vous remercie. Quelquefois, un hasard favorable vous donne de ces indications fortuites qu'il ne faut pas négliger. Celle-ci, bien que fort obscure, est peut-être de ce nombre. L'entretien était fini. Béchoux, désireux de développer certaines considérations propres à le mettre en relief, reconduisit le notaire jusqu'à la grille. À son retour, il trouva dans le boudoir du rez-de-chaussée Raoul et les deux jeunes femmes, tous trois silencieux, et il s'écria d'un ton dégagé
« Eh bien, hein, qu'est-ce que t'en dis ? Ces chiffres, ça m'a tout l'air de chiffres alignés sans raison, hein ?»«
Probable. Je t'en donnerai le double, et tu chercheras. »«
Et pour le reste ?»«
Ma foi, la récolte n'est pas mauvaise. »
Cette petite phrase, jetée négligemment, fut suivi d'un silence. Il fallait des raisons sérieuses pour que Raoul l'eût prononcé. Un sentiment de curiosité anxieuse tourna les autres vers lui. Il répéta
« La récolte n'est pas mauvaise. Et ce n'est pas fini. La séance continue. Et tu vois donc des renseignements dans tout ce fatras.
J'en vois beaucoup.
Et tous il nous ramène à ce qui est le centre même de l'aventure. C'est-à-dire ?
C'est-à-dire le déplacement des trois saules.
Et toujours ta marotte, ou plutôt celle de Mademoiselle Montessieu.
Et qui a sa justification très nette dans le testament de Monsieur Montessieu.
Mais sacré nom ! Puisque le plan de Monsieur Montessieu situe les trois saules au lieu même où ils sont.
Oui, mais examine bien ce plan, comme je viens de le faire. Et tu verras que le même travail que l'on a effectué sur le terrain fut accompli également sur le papier. Regarde, on a gratté là, à l'endroit du tertre, la triple croix qui représentait le groupe des saules. Un grattage habile, mais que l'on discerne aisément avec une loupe.
Alors,
rappelle-toi le jour récent où j'étais couché sur la branche d'un des saules et où je t'avais dressé comme un Apollon sur le tertre. Eh bien, à ce moment, je cherchais au hasard et dans toutes les directions ce que nous allons trouver là, sur ce plan, avec une précision mathématique. Prends cette règle et ce crayon et, conformément aux instructions de M. Montessieu, tire une ligne qui va du pilier désigné au saule central actuel. Béchoux obéit et Raoul continua.
Bien. Maintenant, tout en gardant le bas de la règle au pilier, fais-la pivoter à gauche dans le haut, de manière à atteindre le tertre. Parfait. Retire ta règle. Tu as ainsi dessiné un angle aigu qui part du pilier et dont les deux branches se dirigent l'une à gauche, vers l'emplacement primitif des trois saules, l'autre à droite, vers l'emplacement actuel. Dans l'ouverture de ce compas s'étend une bande, un fuseau de terrain, si tu veux, qui, selon qu'on adopte le plan initial de M. Montessieu ou le plan rectifié clandestinement, appartient au lot numéro 1, c'est-à-dire au propriétaire du manoir, ou bien au lot numéro 2, c'est-à-dire au propriétaire du pavillon de chasse. Comprends-tu ? Ah ouais, dit Béchou, que l'argumentation de Raoul semblait soudain captiver. Donc, voilà un premier point élucidé. Passons au second. Que contient ce fuseau de terrain ? Les roches, la moitié de la butte aux Romains, la partie de la gorge étroite où coule la rivière, l'île, etc. C'est-à-dire que le fuseau dérobé, car c'est un pur vol, englobe approximativement toute la rivière, durant son évolution dans le domaine, et que, en définitive, M. Montessieu désirait laisser le cours de cette rivière à ses héritiers du manoir, et qu'il la laisse contre son gré à ses héritiers du pavillon de chasse. Donc, tu prétendrais que toute la machination ourdie avait pour but le vol de la rivière au détriment d'une personne et au bénéfice d'une autre personne ? Exactement. À la mort de M. Montessieu, quelqu'un a intercepté le testament et plus tard est venu ici et a déplacé avec des complices les trois saules. Mais ce testament ne pouvait laisser prévoir l'utilité de ce déplacement et rien ne te l'indique à toi non plus, cette utilité. Non, mais souviens-toi de la phrase de M. Montessieu. « J'exposerai le secret de l'or quand le moment sera venu. » Cette explication n'a peut-être pas été faite, mais le voleur du testament l'a sans doute deviné. Et dès lors, il agissait à bon escient en transplantant les trois saules. Béchou, bien que convaincu, cherchait encore des objections. Hypothèse séduisante. Mais selon toi, qui est-ce qui aurait agi ? Ben, tu connais le proverbe latin. Is fecit qui prodest. Le coupable est celui à qui l'acte profite. Impossible, car en l'occurrence, l'acte profitait à Madame Guersin, dont l'héritage s'est accru de la portion dérobée. Et tu vas pas nous faire croire.
Raoul ne répondit pas aussitôt. Il réfléchissait, tout en épiant le visage de ses interlocuteurs, comme s'il eût voulu voir l'effet que produisait sur eux chacune de ses paroles. À la fin, il se tourna vers Bertrande.
« Excusez-moi, madame, je ne veux rien faire croire, comme le prétend M. Béchou. J'enchaîne simplement les événements les uns aux autres, et je mets dans mes déductions le plus de rigueur et de logique possible. »
« Les choses se sont sûrement passées comme vous le dites, » déclara Bertrande. « Mais c'est en apparence seulement que l'on a travaillé pour moi. En réalité, je ne profiterai pas plus du vol commis que Catherine n'en eût profité dans le cas contraire. Il n'y aura ni haie ni palissade entre nous. Par conséquent, l'instigateur de ce complot inexplicable travaillait pour son intérêt personnel. »
Pas d'hésitation possible à ce propos. Et tu n'as aucune idée. Cependant, tu sais que le domaine a été introduit dans le dossier Montessieu.
Je le sais.
Et par qui le sais-tu ?
Par celui-là même qui a fait le coup.
Eh bien, par celui-là, nous pouvons arriver au centre même de l'affaire.
Ce n'est qu'un comparse.
Oui, un agent d'exécution à la solde d'un autre.
Justement.
Et sans nom.
Raoul ne se pressait pas de donner des précisions. On eût dit qu'il cherchait à donner à la scène, par ses réticences et ses hésitations, le plus d'intensité possible. Pourtant, Béchou insistait. Les deux sœurs attendaient sa réponse.
En tout cas, Béchou, nous poursuivons notre enquête entre nous, hein. Tu ne vas pas nous jeter tes amis de la police dans les jambes.
Non, tu le jures. Je le jure.
Eh bien, la trahison s'est produite dans l'étude elle-même.
Tu en es certain?
Absolument.
Et pourquoi n'as-tu pas prévenu Maître Bernard?
Parce qu'il n'aurait pas agi avec la discrétion nécessaire.
Alors, on peut interroger un de ceux qui l'entourent. Un de ses clercs, par exemple. Je m'en charge.
Je les connais tous. L'un d'eux même est venu ici il y a quelques semaines pour voir ton mari, Bertrande. Tenez, je me souviens, tout à coup. C'était le matin du jour où il a été tué. Il était 8 heures. Moi, j'attendais un mot de mon fiancé, et c'est dans le vestibule que j'ai rencontré ce clerc de l'étude Bernard. Il semblait très agité. À ce moment, ton mari est descendu, et ils sont partis ensemble dans le jardin.
Donc, vous savez comment il s'appelle?
Oh, depuis longtemps. C'est le second clerc, un grand maigre mélancolique, le père Fameron.
Raoul s'attendait à ce nom et ne sourcilla pas. Au bout d'un instant, il questionna.
Un petit renseignement, je vous prie, madame.
Est-ce que, la nuit précédente, M. Guersin était sorti du manoir?
Peut-être, dit Bertrande. Je ne me rappelle plus bien.
Et moi, je me rappelle, et parfaitement. Il avait un peu mal à la tête. Il m'a reconduit jusqu'au village, et il a continué sa promenade du côté de l'île Bonne. Il était 10 heures du soir.
Raoul d'Avenac se leva et marcha de long en large durant 2 ou 3 minutes. Puis il revint s'asseoir et dit posément
« C'est curieux.
Il y a vraiment des coïncidences bizarres. L'homme qui a introduit le testament dans le dossier Montessieu s'appelle Fameron. Au cours de cette nuit-là, vers 10 heures du soir, et du côté de l'île Bonne, il a rencontré la personne qui désirait que ce testament, dérobé par elle évidemment, fût placé parmi les papiers du dossier. Et le père Fameron, après avoir hésité, se chargea de la mission, moyennant le versement d'une somme de 20 000 francs.